Lolita. Lolita. Salut.
Moi. Un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous. La soirée énervée, toujours en deux temps, deux vitesses. Ça commence à 18h en podcast, avant même le passage à l'antenne. C'est magique. De 22h à minuit. Première partie, l'actualité, la musique live. Deuxième heure, à partir de 23h15, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, eh bien, on rhabille Lolita. Lolita, icône pop, mais à quel prix? Derrière le roman de Nabokov, le film de Stanley Kubrick, quelle vie pour Dolores Hayes, la vraie Lolita, enfance volée, abus sexuels, mystification culturelle, pédophilie, comment prendre la parole aujourd'hui? C'est tout le sujet de se énerver, Benoît Lagane.
Et pour en parler, on reçoit Christophe Tison, écrivain, auteur de Journal de Elle, qui vient de paraître aux éditions Goutte d'Or et dans lequel il donne la parole à Lolita. Géraldine Danon, actrice, réalisatrice, navigatrice, qui vient de publier Fille à Papa aux éditions Cherche Midi, dans laquelle elle revient sur une enfance qui aurait pu être rêvée mais qui a été volée par les viols perpétrés par lui, un employé de maison. Hubert Artus, journaliste culturel et critique littéraire, bon connaisseur de l'histoire de la pop culture. Et Sarah Gandillot, rédactrice en chef de Cosette.
En live ce soir, Marion Guilbeault, pour finir cette première heure.
Eh bien, mon icône pop à moi, elle s'appelle Alex Baupin. Il était notre invité déjà mardi, mais il a encore des choses à nous chanter en trio, en version originale pour le NRV. Il est en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. France Inter plus de Murs de Berlin à partir de 23h15. C'est le dernier épisode des Rendez-vous avec X, avec ce soir un gros plan sur le super agent double Heinz Felf. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Tison, en 2004, vous aviez signé « Il m'aimait » chez Grasset. Moi, je me souviens, vous y racontiez le récit de votre enfance volée par un ami pédophile de vos parents. 15 ans plus tard, vous reprenez la plume pour rendre justice à Lolita, enfin plutôt à la vraie Lolita, Dolores Hayes. Vous imaginez le journal intime de Dolores, donc alias Lolita, qui était le personnage de fiction, on le rappelle, de Vladimir Nabokov, qui lui avait donné la parole à Humbert Humbert, c'est-à-dire à l'agresseur. Et puis on se souvient aussi du film de Stanley Kubrick. Est-ce que ça faisait un écho à votre propre histoire pour pouvoir reprendre aujourd'hui, en fait, le parcours de Dolores Hayes?
Bien sûr, quand j'ai commencé à écrire le journal de Lolita, le journal de Elle, hein, j'ai tout de suite pensé à mon enfance, à moi. C'est un écho, évidemment, que je me suis servi de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, que je racontais, comme vous le disiez, dans Il m'aimait, qui a été publié il y a une quinzaine d'années. Et ça a nourri, en fait, non pas le personnage, parce que c'est un personnage féminin, parce que c'est une jeune fille, etc. Je suis pas une jeune fille, mais et que il m'est pas arrivé du tout la même aventure que les aventures qu'il arrive à Lolita, hein, qui sont des tas d'aventures incroyables, mais pour ses émotions, pour ce qu'elle ressentait, pour le sentiment de honte par exemple, ou le sentiment de secret qu'on a tout de suite, parce que quand on est violé, d'un seul coup, il y a une sorte de sentiment de honte, malgré soi, qu'on a malgré soi quand même, c'est ça qui est fou. Et aussi, quand on est abusé enfant, on a une sorte de sentiment de secret, voilà.
Est-ce que enfant, vous aviez le sentiment d'être abusé justement avec cet homme avec qui vous avez partagé un bout de votre vie justement, Christophe Tison?
J'avais le sentiment d'être abusé, oui et non. En fait, quand on est enfant, on se rend pas bien compte de ce qui arrive. Moi, je savais qu'il fallait pas en parler. Voilà. Je savais que c'était quelque chose de secret, quelque chose de sale, de pas bien, qu'il fallait surtout pas en parler. Et donc, voilà, c'était comme ça. Mais c'était aussi parce que les abuseurs, en général, sont manipulateurs. Donc, ils vous disent, il faut pas en parler, ou alors ils vous font comprendre qu'il faut pas en parler. Voilà.
Géraldine Danone, vous, de votre côté, vous signez Fille à Papa. C'est le récit d'une enfance plutôt solaire, mais entachée par des abus sexuels, enfant par un domestique de la maison. Vous avez attendu longtemps, hein, pour parler de ces abus sexuels. La mort de votre mère, la mort de votre père. Vous êtes longtemps tue. À quel moment vous avez dit stop et vous avez décidé de prendre la parole?
En fait, j'ai voulu, à travers ce livre, rendre hommage à mon père qui est décédé il y a un an. Et ça passait par l'enfance, et en me plongeant dans cette partie-là de ma vie, je n'ai plus pu occulter ces abus à répétition dont j'ai été victime. Et je retrouve tout à fait ce que vous racontiez. C'est vrai qu'il y a ce sentiment de honte, de culpabilité. On ne sait jamais si ce n'est pas de notre faute. Et surtout, je pense effectivement que l'agresseur fait en sorte de vous rendre coupable et de faire planer un secret autour de ça et une peur de le révéler aussi.
Pour quelle raison vous n'aviez pas parlé à l'époque à vos parents, justement ?
Parce que j'avais peur, parce que j'avais honte, parce que je pensais que ça venait de moi. Et puis sans doute parce qu'il, et ça c'est assez flou dans mon esprit, parce que je crois que quand il se passe ce genre de choses, on range ça dans une partie du cerveau assez obscure pour se protéger justement de la souffrance. Donc parce que j'avais honte et j'avais peur d'en parler. Je pense qu'il faisait en sorte de créer cette peur chez moi.
Vous avez eu peur d'en parler pendant des années, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait d'analyse ?
Sans doute, oui.
Vous n'auriez pas pu non plus en parler sur un divan ou en face à face avec un psychothérapeute ?
C'est aussi parce que, et ça je l'explique dans ce livre, j'ai choisi un autre parti que l'analyse, qui est celui d'aller en avant, d'être dans une sorte de suractivité, je dirais, qui me convient bien, et qui est passé pendant longtemps par la comédie. Ensuite, j'ai eu un restaurant, j'ai joué au théâtre tous les jours, je me suis occupée d'un théâtre, je suis partie en mer, j'ai allié toutes ces différentes activités, et par cette soif effrénée d'action, j'ai fait mon auto-analyse. Je n'ai pas fait le choix de l'analyse, j'avais le sentiment que je n'avais pas le temps pour ça, bien que je respecte tout à fait ce choix-là, évidemment.
Christophe Tison, Géraldine Adam vient de nous dire à l'instant que c'est en se replongeant dans son enfance, pour rendre hommage à son père, que ses souvenirs lui sont revenus. Vous, pour Il m'aimait, c'est à quelle occasion, quel a été l'élément déclencheur ?
Je me suis perdu dans un endroit que je connaissais très bien. La nuit. Et je me suis retrouvé par terre, allongé, et incapable de rentrer chez moi. Et on m'a emmené dans un hôpital psychiatrique à Sainte-Anne, à Paris. Et ça a été l'élément déclencheur, parce que j'étais un peu délirant à ce moment-là, ils se sont demandé ce qui m'arrivait. Et puis, en fait, je racontais en boucle cette histoire. Voilà. Et c'est la première fois que je la racontais. Comme Géraldine, je ne l'avais pas raconté à un psychothérapeute, etc. J'en avais vu, mais jamais je leur avais raconté l'histoire. Et là, je l'ai enfin raconté. Voilà. C'était ça l'élément déclencheur. Mais c'est venu d'un coup, comme un abcès qui grossit, et puis qui d'un seul coup éclate.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 40 ans.
Benoît Lagan.
Hubert Artus, aujourd'hui, donc Géraldine Danon écrit Fille à papa, Christophe Tison écrit le journal de Lolita, il y a eu le spectacle puis le film Les Chatouilles d'Andréa Bescon, d'autres livres comme ça sont arrivés. Est-ce que ça veut dire que c'est par la littérature, par les œuvres d'art, que l'omerta éclate aujourd'hui par rapport à cette parole interdite ?
Par les œuvres d'art, peut-être, par la littérature, je pense pas, parce qu'on peut pas dire que le tabou de la pédophilie a été une thématique majeure en littérature, sauf depuis à peu près 10 ans. Et d'ailleurs, c'est la littérature de genre qui s'en est saisie, à mon sens, puisque comment ne pas penser au personnage de Lisbeth Salander, littérature de genre, polar, millénium, grand roman, grande série, film aussi, puisque c'est non seulement la punkette et la hackeuse que l'on connaît, mais c'est aussi quelqu'un qui, par des parents adoptifs, par son père adoptif, a été violé. Je ne spoile rien, puisqu'on le sait dès le premier tome de la trilogie de Bjørn Larsson. Donc c'est la question du genre littéraire qui s'en est saisie, et c'était en 2005 qu'a été écrit ce premier tome. Donc ça reste quand même récent à l'échelle de l'histoire qu'on est en train de dire. Donc en littérature, il y a eu le polar qui s'en est toujours un peu saisi, mais il s'est saisi la question du viol, pas forcément de la pédophilie. Parce que quand même, Lolita, c'est ni plus ni moins que le premier roman sur la pédophilie. Il faut quand même dire les choses par leur nom, c'est exactement ça. Après, c'est arrivé par le cinéma, par Kubrick, qui en a fait le film. Et Kubrick, c'est un cinéaste pop culture, s'il en est, puisque un des grands manifestes générationnels de la pop culture, c'est Orange Mécanique, et c'est Kubrick qui l'a fait. Donc voilà, donc je pense que pour répondre à la question, la littérature a eu un petit peu de mal avec ça. On peut l'expliquer du côté occidental, où nous sommes, du côté européen, parce que là, on parle d'imaginaire occidental, hein, où la question du rapport entre les sexes et entre les classes sociales est posée différemment d'entre les autres cultures. Mais c'est peut-être aussi qu'il y a des milieux, et il faut le dire, le milieu de l'édition a aussi souvent eu du ont du mal avec cette, justement, la verbalisation de cette question de la pédophilie.
Géraldine Danon, depuis la sortie de ce livre, quelles sont les réactions qui vous ont le plus intriguée ou le plus marquée?
Eh bien, je trouve qu'il y a beaucoup de, curieusement, les gens ont peur de parler de ça. Je m'aperçois même en interview que les gens ont beaucoup de mal à aborder le sujet. Ils me parlent de mon père, ils me parlent de Romy Schneider.
Parce que vous évoquez, votre père était producteur, Romy Schneider,
choses,
Alain Delon qui était votre parrain. Mmh. Voilà, il y a toute une enfance absolument solaire,
magnifique. Oui, c'est un conte de fées qui tourne au vinaigre.
Et donc, vos interlocuteurs...
Ils ont du mal avec ça. Alors, est-ce que c'est une forme de pudeur qui me touche, hein, d'ailleurs? Mais quelque part, si j'ai eu besoin d'écrire ce livre, c'est que j'ai eu envie de dépasser cette pudeur. Ce qu'il faut savoir, que ça a été pour moi très libérateur d'écrire là-dessus. De mettre un doigt sur mes blessures, de les exprimer, de les écrire. C'est beaucoup plus difficile d'en parler. Mais de les écrire a été profondément libérateur pour moi. Donc ça, et puis sinon les réactions de la famille aussi peuvent surprendre, la famille plus éloignée, surtout dans un milieu aisé comme le mien, celui dans lequel j'ai évolué. Il y a une sorte de... C'est pas chic de parler de ce genre de choses. C'est... Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de prendre la parole.
Sarah Gandillo, vous me disiez en préparant l'émission que pour vous, vous aviez l'impression que le cinéma avait joué un rôle important, notamment entre le film de François Ozon, mais il y a eu le film, donc je citais Les Chatouilles, Police de Mai Wen aussi, que c'était vraiment des films qui avaient compté pour justement libérer la parole.
Absolument. Le film de Mai Wen, c'est vraiment un moment où Police, en l'occurrence, où la question de l'abus des enfants est exposée très clairement, et on voit d'ailleurs, elle parle beaucoup du fait que c'est dans tous les milieux. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Sandrine Kiberlin qui est mariée à un, voilà, ce qui est très important parce qu'il y a des fausses idées sur les abus. Évidemment, on pense que c'est que dans les milieux extrêmement populaires,
très défavorisés, ouais.
Ce qui est faux, d'ailleurs, on peut le voir avec
Mais on en parle moins, on va dire. On en parle moins, justement, pour les raisons que je viens de citer, ouais. Parce que c'est pas élégant, parce que ça reste de l'ordre du secret de famille, parce que ça se dit pas.
Et puis, il y a le film de François Ozon, évidemment, Grâce à Dieu, qui, parle des abus dans l'église, qui met la parole des enfants, enfin, des victimes, parce qu'ils sont plus du tout des enfants quand ils prennent la parole, mais... en avant, très très en avant. Enfin, jamais on avait entendu autant. Enfin, ça dure 2h15 et pendant 2h15, on entend la parole des victimes. Donc voilà. Et puis, j'ai vraiment envie de revenir sur le film d'Andrea Bescon, Les Chatouilles, parce que elle a été victime. Elle a fait une pièce de théâtre toute seule. Elle était totalement inconnue au bataillon. Elle était à Avignon. Personne n'a voulu financer son spectacle parce que qui va aller voir un spectacle sur la pédophilie, c'est ce qu'on lui disait, hein, ce qu'on lui répondait. Et elle a bataillé parce qu'évidemment c'était une question de survie. Enfin voilà, pour elle, elle jouait tous les personnages de sa vie, de sa propre vie, dont son agresseur. Voilà. Et ensuite c'est devenu un film avec Karine Viard, Delalonchamp, Clovis Cornillac et voilà.
Et des Césars à la fin pour
Et des Césars et des Molières et voilà et une histoire hyper forte et voilà et pourtant c'est un sujet
pas facile. Il y a toujours des résistances. D'ailleurs, j'étais très surpris, Christophe Tison, quand votre livre est sorti. Plusieurs journalistes se sont demandé s'il était bien nécessaire de venger le personnage de fiction qu'est Lolita.
Ouais, c'est bizarre. J'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai jamais voulu venger Lolita. Pour moi, c'est pas quelque chose de... C'est juste une fiction. J'ai écrit une fiction à propos sur un personnage de roman. Je me suis dit, et si un personnage de roman écrivait son journal? Son journal intime. J'aurais pu le faire avec Madame Bovary, hein. J'aurais pu écrire le journal intime de Madame Bovary. Ça aurait été peut-être pas mal. Mais bon, là, d'un seul coup, Lolita, dans le roman Lolita, elle ne parle quasiment pas.
Non, c'est Humbert qui parle. C'est un monologue. Tout le temps, ouais. C'est un homme, ouais.
L'agresseur. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien l'entendre, elle, savoir ce qu'elle a à dire, ce qu'elle ressent, quelles sont ses envies, est-ce qu'elle a envie de fuir, est-ce qu'elle a envie de, voilà. Et donc, voilà, c'est, mais venger, honnêtement, non.
Comment vous avez compris le projet littéraire, vous, Hubert
de Christophe Tison,
ouais, de Christophe Tison.
Qui est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, justement parce que, comme il a été dit à plusieurs reprises dans l'émission, Christophe Tison est, à mon sens, le romancier, l'écrivain français, la plume française qui pouvait, par ce qui est raconté dans Il m'aimait, justement se mettre judicieusement, littérairement, culturellement et de manière élégante, mais mâle, justement, en tant que mâle, faire une prise femelle acceptable, justement, une prise femelle sans vulgarité, hein, mais une prise femelle au niveau de l'imaginaire, et arriver à rendre ça, justement, tout en étant crédible, parce que il l'a subi aussi, donc il l'a vécu, donc il l'a surpassé, donc il peut l'écrire. Et pour moi, un écrivain, c'est évident, enfin, un créateur, une créatrice, c'est aussi, justement, quelqu'un qui surpasse ses propres douleurs et son propre deuil par ça. Et justement, c'est cette prise féminine du journal intime d'Humbert Humbert qui constitue le roman Lolita de Nabokov, eh bien, pouvait être comme ça crédibilisé. Et c'est super. Et puis, ça tombe bien à l'époque Me Too, parce que c'est aussi un texte qui parle de la prédation sexuelle, de la prédation mâle, etc. Donc, ça résonne parfaitement avec l'époque, tout en se greffant sur un roman de 1954, quand même.
Sarah Gondillo.
Oui, et en fait,
Vous voyez trépigner tout
de suite. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il faut pas se tromper sur le propos de Christophe Tison, et à aucun moment, Christophe, il dit, le méchant Nabokov, il a pas donné la parole à Lolita. Enfin, je crois qu'il y a aucun malaise là-dessus.
C'est pas une remise en cause du statut du livre de Nabokov.
Ni de la démarche littéraire de Nabokov. Enfin, Nabokov est hyper clair sur sa démarche. Son but, c'est de montrer ce qui se passe dans la tête d'Humbert Humbert, et voilà, c'est son parti pris. Et j'ai l'impression que le geste de Christophe, c'est juste de dire, bah, moi, ça m'intéresse juste d'entendre, de voir qu'est-ce qu'elle a à dire, enfin, d'imaginer, en l'occurrence.
Mais par ailleurs,
qu'est-ce qu'elle a à dire?
Vous m'avez dit que, au moment de la lecture, vous êtes dit que chez les féministes, ça risquait peut-être de poser problème, au départ, du moins.
Je confirme, parce qu'elle m'a posé la question à moi, qui suis un homme féministe.
Pourquoi?
Et qui écrit pour Cosmé.
J'ai un tout petit peu douté, mais parce que, en fait, c'est sur le fait que, évidemment, il y a plein de moments où Lolita est ambivalente sur son désir. Il y a des moments où même elle cherche son prédateur. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, si on connaît un tout petit peu la question de l'abus sexuel sur enfant, on sait à quel point on peut tout mélanger et n'être plus du tout au clair et voir victime d'un syndrome de Stockholm,
oui, c'est pas dit,
voilà, total, perdre absolument tous ses repères, voilà. Et donc j'ai très vite reculé sur mes propres doutes et voilà, et je suis convaincue d'ailleurs que Christophe fait de sa Lolita une héroïne féministe pour le coup, qui prend beaucoup de pouvoir, qui tient des propos sur les femmes au foyer,
c'est au syndrome de Stockholm, justement, kidnappeur, bourreau, enfin, et c'est justement pour cette raison que j'ai employé la troisième personne, moi.
Jamais nommé, c'est toujours lui.
Lui, le père, la mère et elle en ce qui me concerne, parce que c'est grâce à cette troisième personne que j'ai pu résister à tous ces abus, parce que je sortais de mon corps d'une certaine façon et que je me voyais comme un personnage étranger. J'arrivais vraiment à me distancier, à m'évader, et c'est cette troisième personne qui d'ailleurs est devenue une habitude après, qui a fait que je me considérais un peu comme l'héroïne de ma propre vie, et c'est celle-ci qui m'a sauvée. Donc je ne voyais pas d'autres moyens de narration que d'employer la troisième personne et de ne jamais le nommer, parce que finalement il n'existe pas, il est tous les agresseurs et elle est toutes les victimes.
Alors justement, c'est très intéressant cette histoire d'ambivalence, justement, quand on est enfant, parce que à un moment donné, c'est pas du tout spoiler le récit, mais à un moment donné, vous avez décidé que ça serait fini, vous vous dites stop.
Et c'est le moment le pire d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là,
parce que c'est à ce moment-là
qu'il s'arrête.
Vous lui dites c'est fini.
Et que finalement, je me dis, eh bien, c'est peut-être j'aurais pu faire cesser.
C'était aussi simple que
ces choses-là avant. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de ma faute. Et c'est à ce moment-là que ce sentiment de honte est exacerbé, parce qu'on se dit, finalement, j'étais tout à fait partie prenante. Et puis, ça aurait pu s'arrêter avant. Ouais.
C'est le moment terrible du texte. Une petite blonde à la voix sucrée, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est Angèle, la Lolita de la pop franco-belge.
Doux réveil, au goût amer, était-ce un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. été me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Le vent c'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai, ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, leur vérité me tue.
Les matins d'Angèle à écouter aussi le soir, ça marche aussi le soir dans le énervé.
Est-ce nécessaire de me réveiller? Je venais juste de m'endormir. C'est amusant.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Tu vas sonner et commander le petit déjeuner.
Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire.
Qu'est-ce que tu veux faire, là?
Pourquoi on ne joue pas un petit jeu?
Tu as envie de jouer? Oh non, oui, bon. Non, tu vas commander le petit déjeuner immédiatement.
Non, tout à l'heure. Vous êtes sûr que vous ne devinez pas de quel jeu je veux parler?
Moi, je m'appelle Lolita.
Lolita, mythologie pop de Stanley Kubrick à Alizé qu'on est en train d'écouter à l'occasion, on en parle à l'occasion de l'apparition du journal de Elle de Christophe Tison. On se pose la question, Lolita, mais c'est pas sa faute. Pour en parler, l'écrivain et journaliste donc Christophe Tison, l'actrice et navigatrice Géraldine Danon qui signe Fille à Papa et deux journalistes, la rédactrice en chef de Cosette Sarah Gandillot et le critique littéraire et journaliste culturel Hubert Arthus. Hubert Arthus d'ailleurs dans Slate, vous écrivez que la question ce serait plutôt à propos de Lolita. Comment le fantasme d'un pédophile a-t-il pu devenir une icône de la pop culture? Vous devez avoir la réponse, puisque vous avez même signé la grande histoire de la pop culture.
Alors, c'est tout ça touche. Alors, il y a d'une part le tabou, et puis il y a la figure féminine.
C'est Christophe Tison, c'est Hubert Arthus, alors.
C'est Hubert Arthus, mais c'est Christophe Tison qui avait écrit dans Slate.
Oui, parce que moi, j'ai jamais écrit dans Slate.
C'est pour ça que j'ai eu un moment de, je me suis dit, j'ai écrit des articles dont je me rappelle plus. Ouais, c'est comment ça, moi qui étais un peu.
Non, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui m'ai mélangé.
Merci à vous, me voilà rassuré. Je peux donc répondre sereinement à votre question. Tout ça, c'est de la figure aussi de la victime. Parce que longtemps, Lolita a malheureusement été vue comme une sorte de victime consentante, donc une allumeuse.
Une allumeuse, oui.
Donc, une fille plus, qui n'a pas encore le droit de faire du sexe, mais qui va quand même y aller. Et le film de Kubrick tourne d'ailleurs autour de ça. Et c'est comme ça qu'il l'a rendu compatible avec les 60s et les 70s. Et ça nimbe tout l'imaginaire érotique. Alors pas forcément littéraire, mais pour le coup, des séries, du cinéma, et puis aussi un peu des codes de comment ce que les pop stars de la musique des années 80 sont vécues et ont tourné elles-mêmes dans leurs propres clips. On peut pas imaginer des clips comme l'a fait Madonna et la façon dont elle a provoqué la religion, sans y voir aussi des références à la façon dont était imaginé et filmé le personnage de Lolita ou les personnages qui se sont appelés après les Lolita, parce que n'oublions pas qu'entre-temps, et c'est là la victoire quelque part aussi de l'imaginaire, c'est que on est passé de Lolita, personnage de roman et de film, à une Lolita, une allumeuse, une victime consentante, bref, vous savez, elle l'a bien cherché quand même, quoi. Voilà, c'est ça le truc.
Il y a un malentendu abyssal, c'est ça Christophe Tison?
Oui, oui, je pense qu'il y a un malentendu. En fait, la Lolita originelle, celle de Nabokov, c'est une victime. Hein, et puis peu à peu, et Nabokov le reconnaît lui-même.
Ah oui, il en parlait à Pivot.
Oui,
dans une émission.
Bernard Pivot lui dit vous n'avez pas peur que qu'on vous confonde avec cette jeune fille perverse? Et Nabokov dit perverse, mais elle n'est pas du tout perverse. C'est une pauvre fille. Donc voilà. Et d'un seul coup, bizarrement, comme le disait Hubert, ça, l'image de Lolita, de la Lolita, est devenue une image sexuelle. Oui, sexuelle.
Voilà. Géraldine Danon, vous comprenez justement ce malentendu qu'il y a pu avoir sur cette histoire d'une enfant qui devient une aguicheuse.
Oui, une aguicheuse, une allumeuse, une petite fille trop maquillée, une petite fille qui joue à la grande, on va dire. Oui, je comprends, c'était pas mon cas en l'occurrence, donc...
Mais vous évoluiez toujours dans un milieu d'adulte.
Oui, j'évoluais dans un milieu d'adulte.
Vous étiez sur les plateaux de votre père alors que vous étiez très jeune.
Oui, mais
presque pas aux commandes des tournages, mais quand même avec un mot à dire sur
les
tournages.
Je ne singeais pas les adultes, et c'est un petit peu, en tout cas dans la déformation, ce qu'on entend par le terme Lolita. C'est une petite fille qui joue à la grande, qui se met du vernis, on se souvient de cette scène. Et je crois que c'est plus présent d'ailleurs dans le film de Kubrick que dans le livre.
Roman, ouais. Voilà.
Ouais, voilà,
en revanche, c'est vrai que j'étais très précoce, si je puis dire, à bien des égards, oui. Toujours avec des adultes, très prise à partie par les adultes. Comme vous le disiez, j'allais sur les tournages, on me questionnait sur les scénarios, donc c'est peut-être ce qui effectivement dans l'œil de l'agresseur me rendait allumeuse, certainement, oui. De toute façon, il trouve toujours des bonnes excuses.
Ça va, Nio ?
Oui, je pense que c'est le fait que Lolita devienne, enfin qu'il y ait un malentendu sur Lolita arrive avec le film de Kubrick, en fait, parce que dans Nabokov, la petite, elle a 12 ans, hein, et en fait, Kubrick, pour contrer la censure, il prend une gamine de 15 ans qui a l'air d'en avoir 17, ouais. Et ça se transforme en une histoire un peu compliquée, un peu tordue, entre une jeune fille. C'est pas du tout la même histoire, en fait. Et pour contrer la censure américaine d'Hollywood de l'époque, d'ailleurs Nabokov, je crois, était pas enchanté
d'accord du tout,
par cette affaire. Et c'est comme ça qu'on arrive. Ne serait-ce que l'affiche, enfin les lunettes de soleil en cœur, la sucette dans la bouche et cette pose aguicheuse.
Oui, il y aurait peut-être pas eu la déformation avec les Lolitas si on s'en était tenu au livre.
Cette affiche là en elle-même, elle dit tout le malentendu. J'ai l'impression.
Ça serait peut-être resté un prénom.
Ouais, voilà. Et puis la chanson d'Alizée, quoi. Enfin, on n'en parle pas assez. Mais c'est vraiment un problème. Non, mais ça compte. Enfin, le malentendu. Avez-vous re-regardé le clip? Moi, j'ai re-regardé pour l'occasion.
Aussi.
C'est quand même.
J'adore.
Non, mais j'aime bien la chanson, mais ouais. Franchement, il faut dire que c'est un guilty pleasure. La chanson, elle est bien sûr exceptionnelle.
Ah,
mais par
coupable,
contre,
ouais.
c'est un scandale. Enfin, le propos est scandaleux. Elle est là et puis il y a sa vieille mère, je crois, qui lui dit espèce de traînée, voilà, et elle va en boîte de nuit avec sa petite sœur, bizarre. Pourquoi ? Je ne sais pas. 3 ans.
Je
ne
connais pas.
Mais regardez, ça vaut le coup.
Sur YouTube, ça y est.
Et genre, elle danse en boîte pendant des heures et tout, en allumant tous les mecs. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, Nabokov se retourne dans sa tombe, là. C'est problématique.
Il y a une racine à tous ces troubles qui sont les nôtres et qui ont passé les décennies et qu'on verbalise à travers le livre, le film et puis le nom commun, Lolita. C'est que, n'oublions pas, et ça rajoute à l'effet miroir, c'est là où ça devient miroir à trois faces, c'est que tout ça se greffe sur un fait divers réel. N'oublions pas que pour son roman Lolita, Nabokov s'est inspiré d'un fait qui était arrivé quelques années avant.
L'histoire de Sally Horner, c'est ça?
Voilà, qui a été re-raconté par une journaliste du Washington Post, qui est devenu un livre traduit aux éditions du Seuil et qui est paru en même temps que celui de Christophe Tison, d'ailleurs, en la rentrée littéraire dernière. Et c'est aussi pour ça que de toute façon tout ça a ainsi traversé les époques, les générations, voire les cultures et les imaginaires et le trouble, et qu'on n'en sortira pas, et tant mieux quelque part, même s'il faut régler compte à la question machiste et en faire du féminisme. Mais c'est aussi pour ça qu'elle continue à nous troubler, c'est parce que c'est comme tout ce qui au départ est réel, dont un jour un écrivain génial, étordu et génial comme Nabokov, et un cinéaste génial, étordu et génial comme Kubrick se sont saisis, c'est parce que précisément ça se greffe dans notre histoire vraie, et ça on n'en sort pas. C'est ça aussi le truc.
Géraldine Danon, est-ce que vous auriez aimé en parler à votre agresseur ?
Oui, j'aurais aimé. Ça aussi, je le raconte dans le livre. J'ai le deuxième moment le plus difficile après la réalisation du fait que ça aurait pu s'arrêter avant.
C'est quand vous apprenez sa mort.
Tout à fait, oui. Et là, c'est
cancer généralisé.
Mon physique qui parle, parce que j'ai un corps qui parle souvent avant la parole, avant, et mon corps se met à trembler, je reste bloquée pendant 3 jours sans pouvoir bouger, j'avais certainement fomenté une vengeance et que il me l'a dérobée en s'en allant avant.
Christophe Tison, vous en avez parlé avec votre agresseur, avec qui vous avez vécu pendant quelques années?
Non, jamais. J'en ai jamais parlé. Et il a essayé de me recontacter, il a essayé de recontacter ma maman, mais j'ai jamais voulu lui en parler. Mais en revanche, un jour où j'étais à la brigade des mineurs pour témoigner de cette affaire, on m'a demandé si jamais il était coincé pour une autre affaire, si je serais là pour témoigner. Et pour lui dire que finalement, c'était un salaud. Et j'ai dit oui.
Ce qui est très dérangeant d'ailleurs dans le texte, dans votre texte, Géraldine Danon, c'est que il s'efface par deux fois. C'est-à-dire que vous apprenez sa mort sans l'avoir vu depuis des années. Et puis aussi, enfant, vous apprenez qu'il part, mais du jour au lendemain. Il quitte la maison du jour au lendemain, peu de temps après que vous lui ayez dit non, c'est terminé.
Je pense que comme un fantôme, c'était la raison.
Comme
et à mon avis, il avait
existé. Ouais.
Tout à fait, oui. Et à mon avis, il avait peur que ça éclate.
Ah oui, que la parole se libère.
Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a quitté la maison. Et c'est vrai que c'est. Et puis ma mère me l'apprend à ce moment-là avec presque une pointe de il est parti. Oui, comme un fantôme. Donc on finit à un moment donné par se demander si tout ça a existé ou pas. Encore une fois, avec cette partie du cerveau dans laquelle on range ces épisodes traumatiques qui sont ressortis, en ce qui me concerne, par l'hypnose aussi. Je voulais arrêter de fumer, j'ai commencé à faire de l'hypnose, parce que je n'avais pas le temps pour l'analyse. Mais
vous avez du temps pour l'hypnose. Voilà.
Ça va plus vite, ça fait appel au subconscient, à l'inconscient. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et qui ont été très douloureuses, et ça, c'était avant de prendre la plume.
Vous en avez voulu à vos parents de ne pas s'en être rendu compte?
Non, pas du tout. Et je pense que mon livre reste avant tout un livre d'amour pour mon père
pour votre
et pour
père,
ma mère.
Pour votre mère, c'est...
Ouais, qui sont deux indéniable. Êtres tout à fait exceptionnels, qui, je pense que tout l'amour qu'ils m'ont donné fait qu'aujourd'hui, malgré ces abus à répétition, je suis solide et j'ai appris à vivre avec ces blessures. Donc non, je ne leur en ai jamais voulu. Le contexte fait qu'ils ne pouvaient pas s'apercevoir de ce qui se passait.
Et vous, Christophe Tison?
Moi, je leur en ai longtemps voulu. Et jusqu'à ce que j'écrive ce livre et qu'ils découvrent cette histoire, parce que je leur en avais jamais parlé. Et aujourd'hui, je leur en veux plus. Parce que finalement, ils m'ont dit, on s'est pas rendu compte. Vraiment, on s'est pas rendu compte. À l'époque, on n'en parlait pas. Dans les années 70, 80.
Vous viviez avec lui?
On n'en parlait pas très. Oui, je vivais avec lui, oui. Oui. Je vivais avec mon agresseur, ouais. Je passais des week-ends chez lui. Il m'avait offert une maison. Une petite maison, évidemment.
Une maison.
Quand même. Ouais. Enfin, il m'emmenait à l'école, il me ramenait de l'école, etc. Il me laissait conduire sa voiture. C'était fou.
Aujourd'hui, Christophe Tison, pour parler de Lolita, vous utilisez le journal intime. Est-ce que vous, à l'époque, vous écriviez un journal intime?
Ah non. C'est vrai. Non, j'écrivais pas de journal intime, malheureusement. Mais j'aurais bien aimé.
Ouais. Moi, j'écrivais un journal intime, très intime, sauf que ça n'allait pas jusqu'à cette intimité-là. J'avais sans doute la peur d'être lu, certainement, qui aujourd'hui devient libératrice, puisqu'on écrit pour être lu.
Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Les gentilles filles vont en enfer, c'est le point de vue de la californienne gothique Billie Eilish, la programmation d'enfer de Jean-Baptiste Audibert.
Je voudrais dire deux choses. La première, je ne crois pas avoir écrit un livre de cynisme, mais un livre de tendresse. Et deuxièmement, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'autres façons de pourrir un gosse que de coucher avec.
Mais je sais,
je vous assure.
France Inter.
Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Abus sexuels sur mineurs, c'était pas mieux avant. On en parle avec nos invités. Christophe Tison qui vient de publier Journal de Elle, Géraldine Danon qui signe Fille et Papa, deux journalistes. La rédactrice en chef de Cosette, Sarah Gandillou, et le critique littéraire et journaliste culturel, Hubert Artus. On entendait le témoignage ouvertement pédophile de Gabriel Maltzneff. Hein. C'était devant la caméra de Bernard Pivot dans les années 70. Et plus tard, celui de Denise Bombardier, l'écrivaine et journaliste québécoise, qui lui répondait. Comment vous expliquez avec le recul ce discours et se laisser faire, Sarah Gandillou? On nous dit toujours, c'était une époque.
Oui,
il suffit de lire,
ça,
par exemple, certains articles de Libération dans les années 70 pour comprendre qu'à ce moment-là, la pédophilie n'était pas la chose la plus dénoncée au monde.
Non, on découvre. Enfin, le discours, c'est que les enfants ont une sexualité, ce qui est vrai. Hein, mais il y a un malentendu à ce moment-là. Les enfants ont une sexualité, c'est-à-dire qu'ils ont un sexe.
Entre eux, seuls.
C'est la sexualité infantile. Et ce qui ne veut pas dire que les adultes ont le droit d'avoir une sexualité avec les enfants, en fait. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on trouve ça hallucinant, mais à l'époque, ouais, il y avait un espèce de malentendu. Enfin, est-ce que vraiment ils n'avaient pas compris le message, ou est-ce que c'était pas malentendu,
c'était quelque chose. Oui,
Enfin,
faut pas oublier cette époque-là, années 70. Il y a eu, sous prétexte d'une libération de la parole et de faire tomber toutes les censures, ça a touché l'antisémitisme et le révisionnisme sous couvert de soutien du peuple palestinien, tout à fait concevable et normal à mon sens. Il y a eu des propos qui ont été clairement antisémites. C'est les fameux rouges-bruns. C'est cette génération-là, c'est la pression.
Ouais, ouais.
Et bien sûr, la question de la pédophilie et de la possession du corps d'autrui, qu'il soit d'un enfant, d'un garçon ou d'une fille, il y a eu exactement, je veux pas faire de trop gros traits, mais il y a eu une espèce de libération du discours contre les censures et contre le politiquement correct, etc. Mmh. Et ça a été les deux grands, du moins en Occident, ça a été les deux grands trucs, la pédophilie et la question du révisionnisme sous couvert d'anticolonialisme, etc. Et on peut pas analyser le soutien à Maznev à l'époque, parce que c'est, faut quand même le dire comme ça, c'est clairement ça, sans avoir à l'esprit de l'époque qui, sous prétexte de libération du discours, a laissé passer l'antisémitisme et la pédophilie.
Christophe Tison.
Oui, c'était une époque où les choses étaient, enfin, il était interdit d'interdire, et donc c'était quand même très laxiste. Oui,
avec en plus quelque chose de l'ordre de la provocation là-dedans.
Oui,
aussi.
Ouais.
Hein, qui était à la mode. Oui, voilà.
Oui.
Ça faisait bien.
Et il y avait des romans entiers écrits sur des messieurs d'un certain âge qui se tapaient de jeunes éphèbes de 12 ans ou de 14 ans.
Garçons et filles.
Garçons et filles, ouais, je me souviens très bien.
Et puis il y a cette chose, ce rapport à la fascination, donc à la notoriété ou à l'argent qui fait que...
Il y avait une permissivité dans certains milieux, justement.
Oui, tout à fait.
Intellectuels, ouais. Culturels.
Oui. Des milieux intellectuels et culturels aisés.
Et politiques aussi.
Ça, en fait, ça m'a fait penser à un truc qui est que on avait fait tout un dossier sur mai 68 et la place des femmes pendant mai 68, qui est, on a dit, la libération de la femme. Et bon, il se trouve que par ailleurs, en fait, elles étaient quand même derrière le un peu à la cuisine en train de faire la vaisselle pendant que, enfin voilà, le bon, bref, je passe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle disait, oui, en fait, c'est surtout les hommes qui se sont libérés sexuellement et qui en ont profité à tout va, mais en fait, nous, pas tellement. Et du coup, on avait un peu... ça m'a fait penser à ça sur cette
sur on nous a menti alors.
Et puis ça pose la question, je trouve, du consentement. Elle est consentante et ça va très loin. Alors on revient sur l'allumeuse, mais alors la petite fille, ah oui, elle l'a bien cherchée, elle est fascinée parce qu'il est un intellectuel brillant, mais tout simplement on ne touche pas à des enfants, point barre. Donc qu'elle ait l'air attirée par lui ou pas n'est pas le problème, et ça c'est ce que je viens d'entendre moi. Oui, c'est elle est attirée par moi. Bah oui, mais on ne touche pas à des enfants. Voilà, ça s'arrête là.
Sarah Gondillot, aujourd'hui, donc il y a eu des avancées avec la loi Chiappa. Vous dites que l'allongement de la prescription est quand même une avancée. Alors on est passé à 30 ans. Vous dites 30 ans, c'est toujours mieux que 20 ans par rapport à la prescription pour les par rapport à cette loi. C'est vraiment une avancée parce que ça n'a pas été dit comme ça par beaucoup de militants qui ont considéré que la loi Chiappa c'était pas grand chose au final pour les victimes.
Parce que vous m'avez demandé quelles sont les avancées de la loi Chiappa. Comme il n'y en a pas beaucoup, j'en ai trouvé une. Il se trouve que voilà, on a allongé à 30 ans. Voilà, c'était le seul point positif que j'ai trouvé, donc je l'ai mis en avant.
Alors qu'on demandait l'imprescriptibilité. Hein.
On demandait l'imprescriptibilité, ce qui m'aurait semblé être une bonne chose, parce qu'on sait la parole des victimes peut prendre des années.
La prise de position.
Voilà. Il n'y a pas d'âge, il y a un bon moment pour parler parce qu'on en a besoin,
exactement.
C'est tout.
Donc... Et Christophe avait 40 ans quand il a écrit son livre.
C'était prescrit,
évidemment. Et on sait que parfois, c'est une vie entière, quoi. Et sauf que les victimes, elles ont encore une vie à vivre, même si elles ont 40, 45, 50 ans, et que même une réparation symbolique, c'est toujours une forme de réparation. Donc, ça aurait été bien. Puis ça...
Non, c'est un rendez-vous manqué,
ça
selon vous,
quoi,
cette
loi
Chiappa. Oui, ça n'a pas de sens. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui a du sens, c'est de prendre la parole à un moment et d'avoir besoin de s'en prendre à son agresseur et qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait. Point. Il n'y a pas de 30 ans, de 20 ans, de 10 ans. Ça n'existe pas. Ça me paraît tout à fait idiot.
Oui, et puis il y a des gens qui ne se souviennent absolument plus. Il y a des gens qui font des blackouts et puis ça leur revient, ça leur éclate au visage, oui, d'un seul coup. Et d'un seul coup, ils se souviennent qu'effectivement, ils ont été abusés entre tel âge et tel âge.
Alors, quels sont les nouveaux outils législatifs que la France devrait prendre, selon vous, pour lutter efficacement, justement, Sarah Gondillot? Vous êtes penchée sur le sujet.
J'aurais préféré qu'on revienne sur ce que les militantes ont critiqué, parce que c'est important de.
Et ce qu'elles proposent, parce que critiquer c'est une chose et proposer
c'est
une autre.
Oui, non, bien sûr, mais donc je reviens un tout petit peu. C'est un petit peu technique, mais c'est important. Voilà, c'est important. En fait, ce qu'avance Marlène Schiappa, c'est elle dit avoir introduit pour la première fois dans le droit pénal l'âge de 15 ans. En gros, elle explique que avant cela, il n'y avait aucune spécificité pour les mineurs en matière de viol. Ils étaient jugés, en gros, comme des victimes de viol majeurs. Des personnes majeures, voilà. Et donc, elle dit que le fait même d'introduire cet âge de 15 ans dans la loi, ça peut permettre aux magistrats de s'en servir pour caractériser la contrainte, donc le viol. J'essaie de vous expliquer clairement. En clair, avant, imaginez-vous, il fallait que, comme pour un viol sur une personne majeure, la victime, enfant au moment des faits, puisse justifier de la contrainte, de la menace ou de la surprise, ce qui caractérise le viol. Bon. Compliqué. Et aujourd'hui, ce que dit Schiappa, c'est qu'aujourd'hui, le seul fait d'avoir moins de 15 ans, au moment des faits, peut être suffisant au magistrat pour déclarer qu'il y a eu contrainte. Okay.
Ça, c'est une véritable avancée.
Oui, mais en fait, le problème...
Ah oui, quand même, là, je
tout
crois
à fait,
que...
Tout à fait, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire jusque-là, c'est une véritable avancée.
Oui, mais ce que disent les associations de défense des victimes, c'est que le magistrat peut le faire, mais n'y est pas obligé. C'est-à-dire, donc, souvenons-nous...
En même temps, quoi.
Oui, mais souvenons-nous des affaires de Meaux ou de Pontoise en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez,
mais
ça avait défrayé la chronique, parce que le magistrat avait jugé que la fillette de 11 ans, c'est lui qui en décide, était en fait consentante.
Qu'elle n'avait pas été contrainte.
Donc, ce qui revient à dire qu'elle était consentante.
Voilà.
C'est pour ça que les associations, elles demandaient, parce que maintenant c'est plié, de fixer un seuil de présomption de non-consentement, en l'occurrence 15 ans, le même âge, en dessous duquel un mineur ne pourrait en aucun cas être jugé consentant ou consentante.
Sauf que le juge, si je comprends bien, peut décider que avant 15 ans, elle était consentante ou en tout cas qu'elle n'était pas contrainte mots.
C'est le cas aujourd'hui. Et les associations voudraient qu'il n'y ait pas de débat en dessous de 15 ans, une agression, on est non consentant.
Donc c'est un crime.
Bah oui, mais voilà, cette subtilité est importante parce que vraiment, ça change. Vous voyez, au début, vous avez dit, c'est pas si simple, en fait.
Mais on en revient à tout le sujet finalement de votre livre Journal de Elle, c'était raconter de la part de Lolita ce qu'elle a vécu. Est-ce que c'est un moyen aussi politique aujourd'hui de vous positionner, Christophe Tizan, sur des débats, comme on vient de l'entendre, qui ont l'air de passer encore et encore?
Oui, aussi. J'ai commencé à écrire le Journal de Elle, donc le journal de Lolita, avant l'affaire Weinstein, par exemple. Et puis, d'un seul coup, je me suis aperçu que j'étais dans l'époque. Et c'est ça qui est dingue. Je me suis dit, je suis rattrapé par l'époque, quoi. Et puis, l'affaire Epstein est arrivée aussi. Et c'était fou. Dont l'avion s'appelait Lolita Express. C'est dingue. Donc, effectivement, ça peut être pris aussi comme une sorte de pavé dans la mare, quoi.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est là où on voit qu'à un moment l'imaginaire d'un écrivain ou le alors pas la vengeance puisque vous dites que c'est pas vengeance, Christophe Tizan, mais le retour survécu d'un écrivain rejoint aussi le champ du monde, ce qui se passe dans le monde, ce que dit le monde, ce qui se verbalise dans le monde, et là-dessus il y a pas de hasard. Et la littérature est là pour nous prouver qu'il y a de l'imaginaire, et non pas du hasard justement. C'est qu'à un moment, le moment où vous, Christophe Tizan, décider d'être capable de verbaliser ça en se mettant dans les gants d'une femme de fiction qui se greffe sur un fait divers réel, etc. Et ça tombe effectivement, alors que vous l'aviez pas voulu et que ça avait commencé avant, pendant le monde de l'affaire Weinstein, pendant le mouvement MeToo, pendant Balance ton porc, à un moment justement où il y a quand même des avancées dans la conscience, où on espère que des victimes, hommes, femmes, osent plus aller porter plainte, etc., osent plus se le verbaliser, etc. Et des romans issus de l'imaginaire comme ça peuvent y aider, à mon sens, doivent y aider aussi, parce que justement, on en parle. Il peut y avoir un film, une série, on en parle de Christophe Tizan, comme par hasard en cette rentrée littéraire. Et ça, c'est pas un hasard aussi, justement. Il y a plusieurs romans de fiction sur des viols de filles ou d'hommes. Le superbe Une histoire de France, premier roman de Geoffrine Donadieu, premier roman, elle a 29 ans, chez Gallimard. C'est Zineb Drieff et Mathieu Deslandes chez Grasset, où l'un des deux co-auteurs revient sur un viol dont il se peut-être lui l'héréditaire. Karine Thuil, comme par hasard, on est dans une rentrée littéraire, et ça n'est pas dû que à MeToo, c'est parce qu'on est dans un moment du monde,
parce
des générations,
qu'il est temps que le monde chante à l'unisson,
où des œuvres avant ont fait en sorte qu'il puisse y avoir un socle narratif, romanesque, cinématographique, bref, une base culturelle pour que des générations aujourd'hui verbalisent ça comme ça. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que la fiction, c'est essentiel, parce qu'il y a des choses qui ne se disent que par la fiction, même si elles sont vraies, elles ne se disent que par la fiction, et des romans comme ça en témoignent. Et pardon, je suis un peu long, mais...
Les récits aussi, par exemple. Moi, je me suis demandé, Géraldine Danon, en vous lisant, si aujourd'hui votre agresseur, on va pas refaire l'histoire, ça ne veut rien dire, mais si votre agresseur était toujours en vie, est-ce que vous auriez porté plainte ou tenté de porter plainte?
Alors, très sincèrement, je ne sais pas vous répondre à cette question-là. Je ne peux pas.
Eh bien, on va rester sur cette incertitude. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Tout de suite, vous restez avec nous. On part en live avec Marion Guilbeault et notre invité qui fait coup double, puisqu'on l'a reçu mardi dernier.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Le live, Marion Guilbeault, il était déjà notre invité mardi, on l'a gardé.
Bah oui, celui-là on ne le laisse pas partir une fois qu'on l'a. C'est Alex Baupin qui est de retour avec Pas plus le jour que la nuit, c'est son 6e album et c'est vraiment un album pivot dans sa discographie. On l'a dit, hein, c'est un album qui élargit son propos, qui part de l'intime pour parler au collectif. Il était aussi important cet album pour Alex Baupin en termes de son, de sortir de sa zone de confort, peut-être d'abandonner un peu la variété pour renaître à la chanson. Il a choisi de collaborer avec deux personnalités qui n'étaient pas du tout de son premier cercle. C'était Ambroise Willaume, alias Sage, et Gabriel Legeleux, alias Superpose, la pop anglaise la plus raffinée d'un côté et l'électro la plus pointue de l'autre. Et avec cette équipe restreinte, il y a vraiment eu un renouvellement des sons, des options qui ont été prises, comme par exemple la disparition des cordes. Et jusque-là, c'était quand même un élément très important, constitutif, jusque-là du son Baupin. Alex Baupin, bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé cet effacement des cordes? Vous vouliez vraiment vous débarrasser de Valentine Duteil? C'est raté? J'ai l'impression qu'elle est à la basse.
Non, elle est encore là, elle joue de la basse. Des claviers, donc non, je la garde quand même.
Ouais.
Puis elle a un enfant à nourrir, donc il faut quand même que je suis un peu de
vous
gauche.
Êtes bien aimable. Vous êtes un peu de gauche, alors.
Un peu de gauche, donc je suis obligé de la garder. Non, mais l'idée, c'était de se donner des directions. Après, si vraiment j'avais besoin de cordes, je l'aurais fait. Mais j'avais dit aux garçons, effectivement, ce qui m'intéresse chez vous, c'est que on peut essayer quelque chose de très lyrique, de très cinémascope, sans passer par cette espèce de cliché de la chanson française, qui est de mettre l'ensemble de cordes à la fin pour empaqueter le tout. Et par des textures, par d'autres choses, je crois qu'ils ont réussi à faire cette chose-là, les deux garçons dont vous parliez.
Et bien on va écouter Pas plus le jour que la nuit, le titre qui donne pas son titre à l'album, tout à fait. Alex Baupin, c'est à vous.
Pourquoi, pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts. J'aurais dû cette langue la tourner cette fois. Et me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi, pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts. Je suis parti tout droit, tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je croisé ta route? Qui donc a fait de moi ce petit tas de doutes? Est-ce toi et pourquoi faut-il que tu t'en foutes? Que tu me laisses là? N'entends-tu pas? Écoute, mon cœur tambour qui bat annonce ma déroute infinie. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que
toute la nuit. Je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit. Je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit. Je ne trouve le repos ni la paix.
Merci beaucoup.
Merci, merci à toi.
Alex Baupin, il est toujours accompagné par Valentine Dutheil. Elle est à la basse cette fois-ci et par Antoine Tiburce au clavier. En tournée dès le 8 novembre, ça commence par Foirac, il y aura Rennes, Saint-Lô, Cluses, l'Olympia Paris le 20 novembre. Et la tournée reprend dès le 18 janvier 2020 à Rouen. Prise de son assurée par Florent Layani et Nicolas Delmas. Merci à eux. Merci beaucoup Alex Baupin d'être passé par le nouveau rendez-vous.
Et merci à nos invités Hubert Artus, Sarah Gandillou. On vous retrouve dans les pages de Cosette. Christophe Tison, journal de Elle, ça vient de paraître aux éditions Goutte d'Or. Géraldine Danon, Fille à Papa, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et je signale qu'on pourra vous retrouver sur la scène de la Scala à Paris à partir du 8 novembre dans la pièce Groenland, qui n'est pas sans rapport avec notre sujet de ce soir. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal pour le NRV la suite, pour plus de France Inter. Mais lundi, on a rendez-vous et on se retrouve avec ça. Chili, Liban, Bolivie, Hong Kong, Algérie, Soudan et j'en passe, mondialisation des crises sociales et politiques. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. N'hésitez pas, c'est le 01 56 40 37 37 en live. Eh bien, ce sera le Rock Garage de Bandi Bandi. Le NRV, c'est toujours Marion Lelay à la réalisation, programmation et préparation, Virginie Rosic, Clémence Diligent et Benoît Lagan.
Rendez-vous.